En préambule de ce message ce matin, prenons quelques instants pour réfléchir à la chose suivante. Est-ce que la foi en Jésus-Christ change quelque chose dans ma vie? Est-ce que la foi en Jésus-Christ change quelque chose dans ma vie? Soyons honnêtes et vrais avec nous-mêmes. Dieu connaît toutes choses, il connaît notre cœur. Il sait toutes choses, donc il n'y a pas besoin de lui mentir, parce qu'il connaît déjà, il sait déjà. C'est entre toi et ton Dieu. Est-ce que Jésus-Christ change réellement quelque chose dans ta, dans ma vie? Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Canaan et en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Fais tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme, sers d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après, qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fin de la lecture. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur le texte, quoiqu'il y aurait passablement de choses à dire. Dans cette narration, quelles sont les vies qui ont été changées et transformées par le premier miracle de Jésus-Christ? Tout premier, les serviteurs. Imaginons un instant, les serviteurs ont rempli les 6 jarres d'eau de pierre. Une jarre contenait une centaine de litres. Ils ont rempli approximativement 600 litres d'eau. De nos jours, pour remplir une piscine de 660 litres avec un tuyau d'arrosage dont le débit est de 45 litres toutes les 3 minutes, il nous faudrait 44 minutes pour remplir la piscine. 44 minutes pour remplir 660 litres. Et c'est maintenant, de nos jours, avec la technologie, combien d'heures leur a-t-il fallu pour remplir les 600 litres d'eau? Ensuite, était-ce peut-être miraculeux? Peut-être que ça a été fait en moins de 40 minutes? Peut-être que Dieu a déjà opéré là un miracle qu'on ne voyait pas? Ou peut-être que c'était des heures? Nous n'en savons pas. Ensuite, Jésus leur a demandé de puiser dans l'eau et de l'amener à l'organisateur. Quelle aurait été notre réaction? Franchement, honnêtement, aurions-nous obéi? Ou aurions-nous commencé à discuter avec Jésus pour lui expliquer à quel point c'était une mauvaise idée? L'organisateur, en buvant l'eau, aurait pu la recracher. Il serait peut-être venu foudrage. Ils vous auraient peut-être lapidé. Les serviteurs, quant à eux, selon le texte, ont tout simplement obéi. Ils ont apporté de l'eau à l'organisateur. En chemin. Et lorsque l'organisateur goûta l'eau, l'eau se transforma en vin. Les serviteurs étaient très certainement abasourdis. Ils n'en revenaient pas. Quel miracle! Imaginez de l'eau, puis c'est du vin. C'est incroyable. De l'eau et ensuite du vin. Et pour couronner le tout, un excellent vin, bien plus meilleur que celui que le marié avait acheté. Comment réagiriez-vous à la place du serviteur? En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que leur vie a été complètement transformée, bousculée. Ils ont été changés parce qu'ils ont obéi, vu et expérimenté personnellement le miraculeux et la bonté de Jésus-Christ. Ce premier incroyable miracle a également changé et transformé la vie des disciples. Les disciples crurent en Jésus-Christ. Il est intéressant que cela n'ait pas mentionné des serviteurs, mais seulement des disciples. Pourtant, c'était eux qui étaient en action. Les signes et les prodiges ne sont pas essentiels pour avoir la vraie foi. La vie entière de Jésus-Christ est un signe de la manifestation de l'œuvre de Dieu. Les signes et les miracles encouragent la foi en Jésus-Christ. Le quartier, ça c'est une hypothèse, que le quartier des femmes se trouvait, à l'époque les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre, qu'elles étaient tout près de l'endroit où était stocké le vin. Raison pour laquelle Marie entendit avant Jésus que la réserve de vin était bientôt épuisée. Joseph, le mari de Marie, était certainement déjà décédé parce qu'il apparaît dans plus aucun récit. À l'époque, en l'absence d'un mari, c'était le fils aîné qui reprenait la relève. Et les mamans allaient voir le fils aîné quand il fallait gérer des problèmes ou quand il y avait des choses qui ne jouaient pas dans la vie. Marie s'attendait dans le naturel très certainement à ce que son fils aîné fasse quelque chose. Mais est-ce qu'elle s'attendait à ce qu'il fasse un miracle? Et quelle a été sa réaction? Sa vie a-t-elle été transformée, changée, bouleversée par ce miracle? On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Par contre, dans l'au-delà, nous pourrions lui poser cette question. Et qu'en est-il de l'organisateur du repas et du marié? Ont-ils cherché à mieux comprendre ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que la nouvelle cuvée est bien meilleure que l'ancienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur vie a-t-elle été transformée, bousculée par le miracle de Jésus-Christ? Là aussi, la parole reste muette. Nombreux sont les témoignages de celles et de ceux dont la vie a été bousculée, changée, transformée, réorientée par Jésus, par son amour, ses paroles, sa mort et sa résurrection. Des pêcheurs deviennent des pêcheurs d'hommes et disciples de Jésus-Christ. Zachée devient généreux et pense aux autres. Pierre, quant à lui, a renié 3 fois le Christ et il reçoit le pardon et une toute nouvelle identité, une nouvelle mission. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Toutes les personnes ont vécu une rencontre personnelle avec Christ. Cela a changé et transformé leur vie. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Prenons l'exemple de l'homme riche. Il a aussi une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il lui posa une question, une excellente question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous connaissez tous l'histoire. Il avait de nombreuses richesses. Il n'était pas disposé à s'en séparer. Il s'est lui-même disqualifié en se fiant à ses richesses au lieu de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Chaque être humain reste libre de ses choix, libre d'accepter ou rejeter Christ. Dieu a un plan bien spécifique pour chacune de nos vies. Il veut le meilleur pour nous. Il désire que sa grâce nous transforme. Mais qu'entendons-nous par grâce? On entend souvent parler de grâce, par-ci, par-là. C'est un peu du patois de Canaan, en fin de compte. Parce que dans le monde, on ne parle pas trop comme ça. Le terme grâce apparaît plus de 170 fois dans le Nouveau Testament. Voici comment le dictionnaire, le Petit Larousse, définit la grâce. c'est une faveur accordée librement par quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, la grâce exprime la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire le meilleur pour lui, la vie éternelle. Ézéchiel 18-23. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» La grâce est venue par Jésus-Christ, tandis que la loi a été donnée par Moïse. C'est à la croix qu'éclate la grâce salvatrice. La grâce n'est pas seulement un effet de la miséricorde de Dieu, prêt par bonté à tout pardonner. Non, sa sainteté et sa justice absolue devaient être satisfaites. Pour cela, il a fallu le sacrifice du calvaire. Jésus a été abaissé afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Romains 3, 23, 25. Qu'est-ce que la résurrection de Christ change concrètement dans ma vie? Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes vraiment fous. Notre foi et nos efforts sont en vain. Nous allons tous vers le néant. Dans ce cas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si nous n'avons aucun avenir, aucune espérance, notre vie ne sert absolument à rien. Mais si Jésus est réellement ressuscité, la vie avec ses difficultés, ses peines et ses douleurs prend pleinement sens. On le sait souvent dans la tête, mais est-ce que ça descend jusqu'au corps, jusqu'à notre cœur, comme l'a dit Francine au début? Mais Dieu aura le dernier mot, ceci est certain. La résurrection nous apporte la paix et la certitude d'un avenir glorieux auprès de notre Dieu trois fois saint. Nous retrouverons nos bien-aimés, ceux qui nous ont précédés, tout comme Hans et Otto nous ont déjà précédés. La gloire à venir n'empêche pas que nous ayons peut-être un peu peur de la mort, et c'est tout à fait OK. Avons-nous reçu une révélation ou compris dans notre cœur la puissance de la résurrection? Si ce n'est pas le cas, méditons les textes qui parlent de la mort et de la résurrection de Christ. Demandons à Dieu de venir nous donner une révélation, toucher notre cœur. Il le fera. Si nous le demandons, il est bon et fidèle et il le fera. C'est Christ en nous, par l'Esprit Saint, qui fait son œuvre afin que nous vivions une vie qui lui soit agréable. Son projet pour chacun d'entre nous, c'est que nous grandissions dans la foi et la connaissance de qui il est. Il désire nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme on est, mais il veut il veut nous transformer parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas nous laisser comme on est, parce qu'il y a tellement plus à vivre avec lui, tellement plus. À l'issue d'un message ou au contact de la parole de Dieu, nous prenons souvent de bonnes résolutions en disant « Ah ben, voilà, ça je veux vraiment faire, je veux vraiment changer, je veux vraiment que Dieu me transforme. » Et c'est avec un cœur sincère qu'on le fait très souvent. Nous essayons encore et encore par nos propres forces de changer, de faire mieux, d'obéir à Dieu. On pense souvent qu'on peut le faire de nous-mêmes. Il suffit de les faire et si on n'y arrive pas, on fait encore plus d'efforts pour y arriver. Certains imaginent même qu'en se maltraitant, s'humiliant ils arriveront à leur fin en se disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, il faut pas se mettre en colère, c'est pas juste. Ensuite, on se dit ah ben je sais bien, je suis incapable, je le savais bien, je suis nul, je suis le dernier des derniers et j'en passe. Ensuite, la honte et la culpabilité envahissent notre cœur. Les amis, ça, ce n'est absolument pas la volonté de Dieu. Bien au contraire. Pierre a renié 3 fois le Christ, 3 fois. Il lui a dit, moi, je ne te renierai jamais. Qu'est-ce qu'il fait exactement ça? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pardonné. Il lui a même donné une mission extraordinaire. Celui qui l'a renié 3 fois. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous connaissons, je pense tous, cette petite voix qui nous tire en bas, qui nous dit des choses méchantes sur nous-mêmes. Cette petite voix qui nous dit qu'on est incapable, qu'on n'est pas bon, et ainsi de suite, et j'en passe. Eh bien, ceci, c'est une stratégie de l'ennemi. Vraiment, c'est une stratégie de Satan, parce qu'il sait que si on commence à mal penser de nous-mêmes, si on commence à culpabiliser, à penser du mal de nous et à avoir honte, cela nous empêchera de rentrer en relation avec Dieu et avec nos semblables. La honte et la culpabilité nous isolent et nous séparent de Dieu. J'ai demandé à Dieu qui me parle déjà hier pour ce message. Et ce matin, j'étais aux promenades avec mon chien, et mon chien, ben, comme vous le savez, vient d'une histoire un peu difficile. Un chien d'élevage qui n'a pas eu beaucoup de... elle n'était pas trop avec les humains, on ne l'a pas beaucoup touchée, on ne l'a pas beaucoup caressée. Donc elle a beaucoup de peur, ils n'ont jamais joué avec elle. Et elle prend des morceaux de bois pour jouer, mais toujours 2-3 minutes, ouais, même pas, 1 minute, puis après elle s'enlace. Et ce matin, tout d'un coup, elle prend un bout de bois qui n'était pas trop grand, elle le porte dans sa gueule, elle avait la tête bien en l'air, toute contente, pour pas qu'il tombe. Puis tout d'un coup, il retombe, elle le reprend, elle a joué pendant 5 minutes avec ce bout de bois. C'est la première fois. Et là, je me disais, mais c'est tout comme nous. C'est la même chose, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous relève, il nous aide. Et puis, elle laissait tomber ce bout de bois, elle le reprenait dans la gueule, et puis elle continue à jouer. Et il fait la même chose avec nous, il nous encourage. Donc moi, je l'ai encouragé quand je l'ai vu qu'elle le reprenait. Je lui disais que c'était bien et tout pour la motiver à continuer. Mais Dieu, il fait la même chose avec nous. Il est constamment en train de nous encourager, constamment en train de dire qu'il comprend nos situations, il comprend ce qu'on vit. Certains vivent des galères. Mais Dieu le sait, Dieu est là au milieu avec toi. Il connaît toutes choses. Et il nous élève, il nous soulève, il nous encourage. Son cœur est meurtri quand les gens sont tristes, quand les gens vont pas bien. C'est pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu que nous changeons. Nous avons désespérément besoin de lui. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment faire pour que Jésus-Christ change réellement quelque chose dans ma vie, dans nos vies? Éphésiens 4, 20 à 24 nous donne une piste. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins celui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et de se détruire et se... Pardon, je recommence. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ces désirs trompeurs, à vous. Laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Notre vie n'est plus de ce monde. Notre vie est maintenant spirituelle parce que nous sommes en Christ. Romains 6:6. Nous savons que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Dieu a créé en Jésus-Christ quelque chose d'entièrement nouveau et unique. De quoi consiste le vieil homme ? Il s'agit de notre orgueil, notre amour du péché, notre autosuffisance, notre autosatisfaction, nos dépendances, etc. Nous sommes constamment en conflit entre notre vieil homme, c'est-à-dire la chair et ses désirs, et le nouvel homme, c'est-à-dire vivre par l'esprit. Dimanche dernier, Lynn, pour la mentionner de nouveau une deuxième fois ce matin, nous a partagé cette photo qui reflète fort bien le combat que nous avons intérieurement entre le mal et le bien. Nous devons constamment choisir les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit, l'obéissance à Dieu. L'homme nouveau se réjouit des choses de Dieu. Sa raison d'être est radicalement transformée. Sa vision du monde, ses envies et ses désirs sont entièrement renouvelés. Nous avons tellement besoin de Dieu pour cela. Sans l'aide de Dieu, il est impossible de vaincre le péché, de surmonter nos faiblesses et de lui obéir parfaitement. On peut essayer autant qu'on veut. De notre propre chef, cela est juste impossible. C'est seulement grâce à la puissance de Dieu que nous pouvons y arriver. Nous devenons imitateurs de Christ par le Saint-Esprit qui nous transforme afin que nos pensées, nos attitudes et nos actes coïncident avec celles de Christ. C'est un beau programme, me diriez-vous. Mais comment mettre cela en pratique ? Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec des cœurs humbles et vrais et authentiques devant Dieu, demandons au Saint-Esprit de venir à notre secours. Prenons du temps dans sa présence, cherchons-le de tout notre cœur. Aspirons à vouloir plus de lui. Lisons la parole de Dieu, méditons-la, laissons-nous transformer par celle-ci. Quels sont les signes et les miracles que tu as déjà expérimentés dans ta vie? Souviens-toi de ce que Christ a fait pour toi. Écris-le. Ce souvenir est primordial. Nous sommes si oublieux. As-tu été rencontré personnellement par Christ? A-t-il changé quelque chose dans ta vie? Si tu ne peux répondre positivement à cette question, il est temps d'entrer dans le chemin que Christ a ouvert pour toi et pour nous tous. Il est temps de lui faire confiance, de lui mettre ta vie entre ses mains. Il est temps d'entrer dans sa volonté par ton obéissance. Si tu le désires, je peux volontiers, avec toute humilité, t'aider, t'accompagner dans ce processus. Mais c'est un processus qui est essentiel, parce que ce n'est pas juste en venant à l'église qu'on est sauvé. C'est vraiment en ayant cette relation, cette intimité avec Dieu que les choses changent. Et c'est tellement important. C'est essentiel. C'est vital. Autrement, il n'y a aucun changement entre nous et le monde. On est la même chose que le monde. Prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est lui parler, lui dire ce qui est sur notre cœur. Écoutons-le, il a tellement à nous dire. Avec des cœurs à cœur avec Dieu, Ayons ce temps avec lui. Il attend que cela. Et je sais, c'est un défi, on est tous dans nos activités, dans nos journées, mais comme Francine l'a dit au début, de prendre ce temps d'écart, de sortir de la nuée de ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir vivre autre chose et voir autre chose. C'est tellement important. Et le temps, aujourd'hui, dans l'ère moderne, c'est souvent le manque de temps. C'est souvent, on est tellement chargé avec plein de choses et tout, mais il est tellement indispensable. Et ça, je le dis à moi en tout premier, de prendre ce temps avec Dieu, de passer du temps dans sa présence, de le chercher. C'est seulement là qu'on aura les réponses à nos questions. C'est seulement là qu'on sera transformé. C'est seulement là que Dieu pourra faire son œuvre en nous, qu'il pourra nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Tant que ça y est pas, tout ce qu'on fait est en vain. Et je parle pour moi en tout premier. Mon cœur, mon espérance pour l'Église évangélique libre de Reconvilliers, c'est que nous devenions une Église, une communauté qui a faim et soif de la manifeste présence de Dieu. Amen. Et pour finir ce temps de message, je vais prier. Ensuite, nous écouterons un morceau de musique intitulé « Que mes regards ». Je prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu es au milieu de nous par ton esprit. Merci parce que tu n'abandonnes jamais. Merci parce que tu continues à vouloir nous transformer, à vouloir nous changer, à nous aider à entrer toujours plus dans cette relation d'intimité avec toi. Que tu nous aides. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin que tu viennes nous toucher, tellement besoin que tu viennes nous habiter, tellement besoin que, ouais, sans toi, c'est juste pas possible, c'est juste difficile de passer du temps dans ta présence. On peut devenir religieux à le faire. Mais Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ton secours. Viens à notre secours pour notre autosuffisance, toutes les fois où nous pensons que voilà, ce qu'on fait c'est suffisant, mais pour toi ce ne l'est pas. Viens nous transformer. Aide-nous à vouloir ce que toi tu veux. Aide-nous à t'obéir, Seigneur, à venir à l'Église. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Ta miséricorde, ta grâce, viens nous habiter dans cette Église, viens faire ton œuvre puissante dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être ce peuple, cette Église, cette communauté qui te recherche, qui est connue pour ça, qui est connue pour parce que tu es au milieu de nous, parce qu'il y a un amour qui est surdimensionnel, un amour qui vient de toi, qui vient de toute l'éternité. Viens faire ton œuvre, Seigneur, afin que nous puissions être ses témoins dans ce monde perdu. Afin que ton règne avance ici-bas, Seigneur. Que nous perdions aucune de nos journées à partir de maintenant. Mais que nous te cherchions, toi, avant toute chose. Amen.